Les podcasts du Collège de France, littérature.
Donc, la dernière fois, nous avons vu les deux orientations religieuses, si je puis dire, prises par les romans du Graal tout de suite après Chrétien III, et qui témoignent de la part des auteurs d'une attention profonde à la leçon et à l'orientation tout à fait certaine, mais en même temps discrète et peu explicite, ne serait-ce que parce que le roman est inachevé, la leçon et l'orientation du conte du Graal. Ces deux orientations, c'est d'une part, si je puis dire, le « Quel est ton tourment ?» de Wolfram von Eschenbach, et cette sorte de spiritualité intériorisée de l'attention à laquelle Simone Weil ne pouvait qu'être sensible. Alors, je suis conscient de simplifier très excessivement le très grand roman, très foisonnant, très complexe de Wolfram, mais j'assume tout de même cette simplification. Et puis, de l'autre côté, l'enracinement de la légende du Graal dans l'histoire sainte, dans l'histoire du christianisme, avec Robert de Boron. Et je rappelle les conclusions auxquelles nous étions parvenus, touchant cet auteur, touchant Robert de Boron. Robert se fonde sur des apocryphes très connus, très lus, très traduits au Moyen-Âge. La légende de Joseph d'Arimathie associée au sang du Christ qu'on trouve déjà avant lui utilisée par certains liturgistes. En un sens, son roman n'est qu'une adaptation et une compilation de plus de ces apocryphes. Mais il opère plusieurs transferts et deux sont d'une importance particulière. D'une part, la seule relique connue de ces modèles et d'un grand nombre de ces modèles, d'un grand nombre des apocryphes, c'est la Sainte Face imprimée sur le voile de Véronique et qui guérit le fils de l'empereur de Rome de la lèpre. Robert lui ajoute le Graal, mais il ajoute le Graal à la Véronique et ne le lui substitue pas. Le voile de Véronique continue à jouer son rôle dans toute la partie adaptée des apocryphes et reste l'instrument de la conversion de l'empereur. C'est la Véronique qui guérit et convertit l'empereur et non pas le Graal. Alors, évidemment, il prolonge et gauchit la légende par l'introduction du Graal, mais il le fait en intervenant au minimum et en fondant chacune de ses interventions et chacune des inventions de son récit sur des réminiscences scripturaires implicites, en faisant de chacune le doublet, la répétition d'un passage de l'Écriture. Par exemple, lorsque les tout premiers chrétiens fuit en somme les Juifs en emportant le Graal, eh bien, il y a une répétition implicite mais très claire de l'Exode. C'est un nouvel Exode. Voilà. Donc, si médiocre que soit ce poète, il a un principe d'inventio qui est dans l'imitation méditée de l'Écriture. Ça, c'est le premier transfert qu'il opère. Le second transfert, qui est la translatio, si on peut dire la plus visible, c'est évidemment celle de Terre Sainte en Bretagne, sur laquelle j'avais terminé la dernière fois, en la mettant en parallèle, et c'est bien là encore ce que fait implicitement Robert de Boron, avec la fameuse translatio imperii et studii, de Grèce à Rome, et déjà de Troie, et de Grèce à Rome, et de Rome en Angleterre, avec la légende de Brutus, petit-fils, arrière-petit-fils d'aîné, arrivant en Angleterre, ou en France, avec la légende des Francs, descendants de Francion, que reprendra Ronsard. Bon. Alors, cette translation de l'histoire sainte en Angleterre reste sans véritable explication en dehors de cette symétrie. Pourquoi Robert de Boron, Robert de Boron devait bien amener le Graal en Angleterre, parce que si le Graal avait des racines celtiques, comme Chrétien de Troyes l'avait enraciné dans le monde arthurien, il fallait bien faire la jonction. Mais lui-même, en dehors de cette obligation somme contingente qui était la sienne, lui-même ne fournit pas d'explication déterminante. En tout cas, ce transfert, cette, à la fois ce nouvel enracinement du Graal dans l'histoire du Christ et ensuite son transfert dans les îles britanniques, montre que la question des origines du Graal ne peut être résolue ni par la victoire des origines celtiques sur des origines chrétiennes, ni l'inverse. Parce que plus on montre, et on peut le montrer, que le Graal a des résonances et des équivalents, et probablement des sources, dans la mythologie celtique, plus on fait ressortir l'importance de cette interprétation chrétienne du Graal, que l'on trouve des Chrétiens de Troyes, puisque cette interprétation n'était pas nécessaire. Plus on montre qu'il y a des sources celtiques, moins l'interprétation chrétienne est nécessaire, et plus elle est frappante. Plus on est obligé de l'expliquer. Et plus on montre, et on le peut aussi, que le Graal s'enracine dans une tradition chrétienne, plus on fait ressortir l'importance de son lien avec le monde celtique, puisque c'est bien dans le cadre du monde arthurien qu'il apparaît avec Chrétien de Troyes, et après tout, rien n'obligeait d'expédier Joseph d'Arimathie et le Graal chez les Bretons, si c'était cela l'origine de la légende. Et la lutte est sans issue, si je puis dire, donc il vaut mieux qu'il n'y ait pas de lutte, puisque chaque point marqué par l'un des deux camps aurait pour conséquence de renforcer d'autant le camp adverse. Alors, tels qu'ils sont conçus, et ça aussi, je rappelle, nous l'avions vu la dernière fois, les deux romans qui sont à coup sûr de Robert de Boron, le Joseph d'Arimathie et le Merlin, parcourent l'histoire de la rédemption en faisant, nous l'avons vu, de la conception de Merlin, le symétrique inversé de la conception du Christ, une ultime tentative du diable pour défaire ce que l'incarnation avait obtenu, la rédemption. Et le Graal, relique et témoin du sacrifice rédempteur du Christ, est, dans cette perspective, l'enjeu de ce dernier combat. Enfin, et c'est un point qui en soi peut paraître secondaire, mais qui, pour notre sujet, est particulièrement important, Robert de Boron ne fournit pas seulement une élucidation de la nature et de l'origine du Graal. Il explique et il justifie que le Graal soit entre les mains de la chevalerie, que le Graal soit une affaire de chevalier, qu'il appartienne à des chevaliers de le défendre, de le garder, de le quêter, de le retrouver. Non. Dans le roman de Robert, Joseph d'Arimathie est présenté comme un chevalier de Pilate, selon le modèle médiéval et féodal, un chevalier qui a servi Pilate avec ses propres chevaliers, en lui amenant les combattants qui dépendent de lui. Il a très bien servi Pilate, très longtemps, et selon l'usage, il demande un don en récompense de ses services. Et le don qu'il demande, c'est le corps du Christ. Alors que, en récompense de ses services, Pilate lui donne le corps du Christ comme soudé, comme loyer, comme salaire. Enfin, soudé, soldé, ce qu'on paye avec des sous, hein, ce qui est l'étymologie du mot soldat. Un soldat, c'est un mercenaire qu'on paye avec des sous. Donc, comme soudé, il demande le corps du Christ. Donc, libéré de la prison où les Juifs l'ont ensuite jeté, Joseph d'Arimathie entraîne ceux qui ont cru au Christ, je l'ai dit, dans un nouvel exode qui finit par les conduire en Angleterre. En Terre Sainte, comme dans ces pays inconnus où ils débarquent, ils doivent affronter des ennemis, des infidèles. Le Graal doit être gardé par des combattants. Joseph lui-même étant devenu prêtre du Christ, et donc à la fois en dehors des combats et en dehors de la génération, si je puis dire, la lignée des gardiens du Graal est fondée par son beau-frère Bron. Il y a d'ailleurs un jeu sur lequel je n'insiste pas, sur ce nom qui est tantôt Bron, tantôt Hébron et tantôt Boron. Il semble que Robert de Boron joue du nom de son village d'origine ou de sa terre, là, sur ce nom de Bron et de Boron. Et ainsi se fonde la justification d'une élection qui est à la fois dynastique et militante. Le Graal a vocation à être gardé par les descendants de Bron. Il y a donc un lignage à la fois d'une royauté sacrée, une sorte de sacerdoce royal, comme dirait l'apôtre, pour garder le Graal, et ces gardiens doivent être des soldats, des chevaliers. Non, c'est un point que je laisse en suspens, mais quand nous reprendrons la question de la Militia Christi, nous la retrouverons naturellement, nous le retrouverons. Donc, voilà, au point où nous en sommes, il y a eu ce premier roman, Chrétienne III, les continuations en vers de ce roman inachevé, et puis, d'une part, le roman de Wolfram von Eschenbach, fondé sur Chrétien, qui connaît Chrétien, mais qui va bien au-delà, d'autre part, le roman de Robert de Boron, qui le racine dans l'histoire de Joseph d'Arimathie. Et à ce moment-là, nous sommes donc dans les premières années du XIIIe siècle, et à ce moment-là se produit un phénomène considérable qui est un phénomène littéraire qui dépasse largement l'histoire, la légende du Graal, mais qui a peut-être, nous allons voir, un lien avec elle. Dans le premier tiers du XIIIe siècle, se produit une mutation littéraire de première importance, le développement de la prose littéraire et l'apparition des premiers romans en prose. Au début, vous savez, toute littérature à ses débuts est une littérature en vers. Et la prose comme outil littéraire apparaît toujours plus tard. Et le phénomène se répète, même si cette jeune littérature connaît une littérature précédente où la prose existe. Les poèmes homériques sont au IXe siècle, à peu près avant Jésus-Christ. La prose grecque apparaît et encore d'abord comme prose rythmée à l'extrême fin du VIe siècle, ou au VIe siècle, disons. Mais lorsque la littérature latine se développe, la littérature latine connaît tellement bien la littérature grecque qu'on a l'impression de plus en plus qu'elle en est entièrement traduite, mais tout de même, c'est d'abord la poésie qui apparaît et la prose latine n'apparaît que beaucoup plus tard, à l'époque classique. Eh bien, de même, littérature française ou la littérature romane, les littératures vernaculaires du Moyen-Âge à leur début connaissent naturellement la littérature latine, puisque c'est la langue du monde intellectuel, du monde des écoles, du monde de l'Église, enfin les trois vont ensemble. Et par définition, les textes que nous connaissons ont été copiés par des gens qui savaient le latin, sinon ils n'auraient pas su écrire. Bon. Mais tout de même, cette première littérature est uniquement en vers. Au XIIe siècle, il n'existe qu'une littérature en vers. Et la première évolution, c'est le roman qui apparaît un peu après la poésie lyrique et la chanson de geste, et qui est le premier genre littéraire non chanté, non musical, récité, mais tout de même en vers. Et naturellement, la prose existe, mais la prose comme la prose de M. Jourdain, si vous voulez, on parle évidemment en prose, mais on la trouve d'abord employée dans les toutes premières chartes en langue vulgaire ou dans des textes, si on veut, utilitaires, par exemple des sermons. Dans ma jeunesse, ma thèse portait sur les plus anciens sermons en langue vulgaire, et ce sont aussi les premiers monuments de la prose française, les premiers sermons conservés. Mais au début du XIIIe siècle, donc avec pas presque trois siècles après les premières traces de poésie en langue vulgaire romane, hein, et plus d'un siècle après le grand épanouissement de ces littératures, apparaît la prose littéraire sous la forme du roman. Et les premiers romans en prose, ce sont précisément les romans qui tournent autour de cette légende du Graal et de Lancelot, les romans qui nous occupent. Est-ce un hasard ? Bon, probablement, mais je n'en suis pas absolument certain que ce soit totalement un hasard. La prose, gage de vérité, était utilisée jusque-là dans des textes religieux, je l'ai dit, des sermons, des traductions glosées des livres bibliques. D'ailleurs, la différence entre les deux est vraiment ténue. La prose est considérée comme liée à la vérité, c'est ce que disait, nous l'avons vu à d'autres reprises et dans d'autres contextes dans ces cours, c'est ce que disait déjà Isidore de Séville, à propos du latin au 7e siècle. Isidore de Séville qui rapproche le mot prose dans ses étymologies, puisque sa pensée repose sur les étymologies, il rapproche prose de prosum pour prosum en ligne droite. La prose, c'est ce qui va droit au but. Tandis que le vers, et effectivement, le vers est lié à vertere, hein, c'est ce qui revient en arrière, versus, hein, et ce qui recommence, mais le vers, c'est la sinuosité, c'est le détour, c'est ce qui oblige à des ornements, c'est ce qui oblige à des détours, ne serait-ce que parce que les contraintes de la métrique interdisent de dire tout simplement ce qu'on a à dire. Le vers est un langage du mensonge et aussi pour toutes les raisons qui associent la poésie liée à la fable antique au mensonge, comme nous l'avons vu abondamment ces dernières années. De sorte que la prose est liée à la vérité. Dieu parle de préférence en prose. Et l'extension de la prose au roman du Graal pourrait marquer la volonté d'inclure ces romans dans la sphère de la vérité et d'une vérité de type religieux. Je n'irai pas trop loin dans ce sens, je reconnais que c'est une hypothèse aventureuse. Mais enfin, on relève, et pendant une longue période, des cas, et des cas pas si rares, où, pour désigner la prose littéraire, on se réfère à ces romans. La prose littéraire est un mode d'expression encore jeune et on n'a pas tellement le vocabulaire pour en parler. Alors, pour être bien sûr d'être compris, on dit, voilà, c'est écrit sans rime, comme les romans du Graal. Ou, exemple, au début d'une traduction d'une française d'une chronique du règne de Philippe Auguste, le traducteur annonce en vers qu'il va écrire en prose. Et il dit, alors il y a un prologue en vers où il dit, ce que je vais écrire, ce sera comme le livre de Lancelot où il n'y a de vers un seul mot. Nous allons voir dans un instant, mais vous connaissez déjà le lien entre Lancelot et le Graal. Et au début du XIVe siècle encore, Guillaume Molinier, c'est un juriste toulousain. Vous savez que dans les premières années du XIVe siècle est fondé à Toulouse le consistoire du Gai Savoir par les sept troubadours, qu'ils veulent revivifier cet art des troubadours qui est sur le déclin. Et il demande aux juristes, comme c'est une ville universitaire, en terre, une ville de juristes, il demande au juriste Guillaume Molinier d'écrire une sorte de manuel de l'art des troubadours. Et Guillaume Molinier écrit les Leis d'Amors, les Lois d'Amour, qui sont un grand traité extrêmement intéressant parce que c'est d'abord un traité grammatical qui se transforme en traité. Il commence par le début. Alors, les lettres, la phonétique, les sons, la morphologie, la syntaxe, et puis il termine par les genres poétiques. Et au début de ses Lais d'Amoris, il explique de quoi il va parler, et il est embarrassé parce que lui, il a en tête les troubadours. Donc, il ne veut parler que des troubadours. Mais il se rend bien compte, puisque lui, il écrit une époque relative à tardive, le début du XIVe siècle, que les troubadours. Et puis, à ce moment-là, la littérature française s'est répandue partout, même à Toulouse, on la connaît. Et il sait bien que les troubadours, ce n'est pas le tout de la littérature, qu'il y a d'autres formes littéraires, d'autres genres littéraires. Et il se justifie de façon un peu embarrassée de ne parler que de la poésie lyrique, en somme. Et à un moment, il dit qu'il va exclure de son propos les ouvrages en prose comme le roman du Saint Graal. Pour faire comprendre ce que c'est que la prose, il dit « c'est le roman du Saint Graal ». Donc il y a tout de même une association. Et de fait, le premier grand roman en prose française est l'immense cycle romanesque en prose dit du Lancelot Graal. Donc, le présente, mais il est bien connu, mais de façon très, très synthétique, c'est très long. Hein, la recherche du temps perdu, c'est rien à côté comme longueur. C'est vraiment long. Hein, bon. Et tel qu'il se présente aujourd'hui à nous, ce cycle est formé de l'Estuaire del Saint Graal, l'histoire du Saint Graal, qui est une adaptation, un remaniement, une mise en prose du Joseph d'Arimathie de Robert de Boron, de la mise en prose du Merlin de Robert de Boron, augmentée d'une longue continuation destinée à opérer la soudure, du livre de Lancelot du Lac, dit encore Lancelot propre, de la quête du Saint Graal et de la mort le roi Arthur, la mort du roi Arthur. Et c'est cet ensemble qui a à la fois une unité qui est hétéroclite, qu'on désigne sous le nom de Lancelot Graal. Le point de départ de ce cycle, le noyau autour duquel il s'est constitué, c'est le Lancelot propre, le livre de Lancelot du Lac, dont on discute le point de savoir s'il est l'œuvre d'un ou de plusieurs auteurs, mais qui a indubitablement une unité. Il a une unité telle qu'on hésite à considérer qu'il peut être l'œuvre de plusieurs auteurs. En même temps, il y a des contradictions, mais enfin, ça n'exclut rien, et c'est tellement long, tellement foisonnant, qu'on hésite aussi à considérer que c'est l'œuvre d'un seul auteur. Alors, Jean Frappier disait il y a eu un maître d'œuvre et puis différents rédacteurs, ce qui est possible, mais en même temps, ça revient à la constatation de la difficulté. Donc, ce roman raconte... Alors, Lancelot du Lac, il était connu, bon, il y a le Lancelot de Ulrich von Tzatzikhoven qui est un peu à côté, mais surtout, et d'abord, par le Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes, qui raconte une aventure de Lancelot, la délivrance de la reine enlevée par Méléagant, qui ne le nomme qu'au milieu du roman, qu'il appelle alors Lancelot du Lac, et qui fait allusion à la fée du lac, qui vient à son... Et puis, c'est tout. Bon. Le Lancelot propre raconte l'enfance de Lancelot, élevé par la fée du lac, dont le méchant roi, enfin le méchant ambigu, roi Clodas de la déserte c'est le Berry, s'empare des terres du roi Bambénoïc, aux marches de Gaule et de Petite-Bretagne, ce sont les premiers mots du roman. Le roi, la reine et leur petit Lancelot s'enfuient, n'est-ce pas ? Et par traîtrise, Clodas s'empare du dernier château, du château de Trèbes. Le roi Bambénoïc meurt de douleur en voyant dans le lointain brûler son château. La reine s'évanouit et pendant ce temps, ils sont au bord d'un lac. Une dame sort du lac, enlève Lancelot, etc. Enfin bon, ensuite la reine Hélène est appelée la reine aux grandes douleurs et se retire au monastère. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Bref, Lancelot est élevé par la fée du lac, donc ça raconte ça, son arrivée à la cour du roi Arthur, son amour dès le premier regard pour la reine Guenièvre, il s'arrange pour être recevoir la chevalerie de Guenièvre et pas d'Arthur. Plus tard, bon, toutes ses aventures, son amitié, ce qui est le point culminant du roman, avec Galeot, le roi des îles lointaines, le fils de la belle géante, qu'il réconcilie avec Arthur, et qui, alors qu'il est vainqueur du roi Arthur, par admiration pour Lancelot, se déclare vaincu et devient l'ami, mais passionné, de Lancelot, pour favoriser les amours de Lancelot avec Guenièvre, fait la cour, devient l'amant, mais par symétrie, de la suivante de Guenièvre, la dame de Malleot. Donc il y a Galeot, Malleot, Lancelot, Guenièvre, et puis ça marche comme ça, et meurt de chagrin quand il croit que Lancelot est mort. Et puis bon, il y a toutes ces aventures. Et la suite des aventures dirige doucement vers l'histoire du Graal. Des jalons l'annoncent. On sait, depuis le début, il y a des hésitations parce que les manuscrits diffèrent. Il y a un nombre de manuscrits énormes et avec des divergences considérables. Mais j'ai retrouvé une lettre que m'avait écrite en 84 Alexandre Micha, mort à près de 102 ans, il y a 2 ans, et qui a édité tout le Lancelot chez Drault, qui était sûr de son fait. Le roman dit dès le début que le vrai nom de Lancelot est Galahad. Donc son vrai nom, c'est le nom de son fils, le vainqueur du Graal. Il s'appelle Galahad, et il faut remarquer que... Non, ça a été remarqué, évidemment, par Charles Mellat, qui ne rate jamais de ces calembours significatifs, que Lancelot, c'est Lancelot, c'est-à-dire long cachet. Le nom désigne la dissimulation du nom. Non, Lancelot. Bon. Donc, on s'assemble vers la quête du Graal, mais quand on y est, c'est ce roman qui est la quête du Saint Graal et qui nous occupera beaucoup. À ce moment-là, l'esprit du roman change tout à fait. Il est évident à ce moment-là que l'auteur de la quête du Saint Graal n'a rien à voir avec la rédaction du roman qui précède. Et l'esprit change encore avec la mort du roi Arthur. On passe de la célébration de Lancelot, meilleur chevalier du monde, grâce à son amour pour la reine Guenièvre, à la condamnation du péché d'adultère de Lancelot et à l'exaltation, à un roman largement allégorique, La quête du Graal, où toutes les aventures ont une signification symbolique expliquée par des moines et par des ermites, un roman qui exalte une chevalerie mystique et ascétique où se distinguent les vainqueurs du Graal, chevaliers vierges, ou du moins chastes, dont le premier est non plus Perceval, qui vient en second, mais Galahad, fils de Lancelot. Il y a tout de même une élection de Lancelot, mais à travers son fils, Galahad, qui est le fils de Lancelot, et de la fille du roi Pélès, qui est le roi du Graal. Alors comment expliquer que Lancelot, qui aime Guenièvre, a eu Galahad de la fille du roi Pélès ? Il faut imaginer que, par magie, comme il fallait bien que le destin sacré s'accomplisse, même au prix de ce genre de choses, par magie, en somme, la fille du roi Pélès a pris l'apparence de Guenièvre et Lancelot a couché avec la fille du roi Pélès en croyant coucher avec Guenièvre, mais comme Guenièvre ensuite ne sait pas que la fille du roi Pélès avait pris son apparence, ça entraîne un malentendu, une brouille grave. Et s'est résout. Mais ça, c'est avant la quête du Graal, qui n'entre pas dans ce détail sordide. Quand la quête du Graal commence, Galahad est un jeune homme. Donc, le second héros est Perceval, et le troisième héros est Bor, le cousin de Lancelot, le fils du roi Bor de Gannes, frère du roi Bandbanuic. Et on précise, c'est très extrêmement important, que Galahad, le premier, est vierge de corps et de pensée. Perceval est vierge de corps, mais il a eu des pensées impures et il a été tout près de céder à la tentation du démon qui avait pris la forme d'une femme dans une île déserte. Et Bor n'est pas vierge, mais il n'a pas fait exprès. un soir, ça c'est dans le Lancelot propre, la fille du roi Brangoire, qui s'était éprise de lui, l'a fait boire, lui a donné un filtre, jusqu'à ce qu'il ne sache plus ce qu'il faisait. Et donc cet épisode se trouve dans le Lancelot propre, et propre, si je puis dire, et témoigne de la relative unité de l'ensemble. Et les trois héros du Graal, rejoints au château du Graal par d'autres héros secondaires, par 30 héros secondaires, qui sont juste nommés, dont Claudin, le fils de Claudas. Et Claudas est le méchant du début du Lancelot, le roi Claudas de la déserte qui a déshérité Lancelot, et s'est emparé du royaume du roi Brandbanoïc, de sorte que, par symétrie, il y a là encore une sorte de réhabilitation du père par le fils, comme le couple Lancelot-Galahad. Donc les trois héros principaux, Galahad, Perceval, Bor, s'embarquent seuls dans la nef de Salomon, enfin bon, je n'entre pas dans les détails, nous reviendrons sur la nef de Salomon, vont en Terre Sainte à Sarras, la fille du roi Évalac, convertie par Joseph d'Arimathie, devenue Mordrin, la capitale, Galahad, devenu prêtre et célébrant chaque jour l'Eucharistie dans le Graal qui lui sert de calice, meurt au bout d'un an, après avoir demandé de rejoindre le Christ et après avoir vu au fond du Graal les mystères ultimes après lesquels on ne peut pas vivre. Perceval reste comme ermite à Sarras. Bor retourne à la cour du roi Arthur pour témoigner du sort des deux autres et sera mêlé aux aventures ultimes. Voyez donc que dans ce roman, le succès de la visite au château du Graal ne marque pas la fin des aventures. Même là, il y a une difficulté à finir. Ils sont initiés au mystère du Graal dans le château du Graal. Qu'est-ce qui peut arriver de plus ? Eh bien, ils repartent, ils s'embarquent, ils vont à Sarras, qu'est-ce qui peut arriver de plus ? Ils continuent à y vivre, et Galahad célèbre sa messe quotidienne, etc. Et puis, Galahad meurt. Qu'est-ce qui peut arriver de plus ? Eh bien, Bor revient chez le roi Arthur. Il faut bien que quelqu'un raconte ce qui s'est passé. Et enfin, la mort du roi Arthur, qui est un beau roman crépusculaire et tragique, n'a plus du tout cette tonalité mystique et monastique, cistercienne, sur laquelle nous reviendrons enfin. C'est un roman du destin. Lancelot et Guenièvre retombent dans le péché. Ils finissent par être découverts. Et cette menace que leurs amours faisaient peser depuis si longtemps sur le royaume de l'ogre, cette sorte de faille, eh bien, tout cela éclate soudain, guerre entre Arthur et Lancelot, trahison de Mordred, vous savez, et écroulement du royaume de l'ogre, mort du roi Arthur. Encore une fois, malgré les cafouillages, comme me disait Alexandre Micha dans sa lettre, malgré les cafouillages de la tradition manuscrite, c'est bien Galahad qui est désigné dès le début comme le héros du Graal et c'est Galahad qui est désigné dès le début comme le héros du Graal, et c'est Galahad le vrai nom de Lancelot. Donc dès le début, pardonnez-moi de mes propres cafouillages, dès le début, les manuscrits savent que Lancelot s'appelle Galahad et que c'est un Galahad qui n'est pas lui qu'est réservé d'être vainqueur des aventures du Graal. Et d'autres convergences existent. Si la mort le roi Arthur n'est pas l'œuvre d'un mystique, c'est l'œuvre d'un moraliste. Et c'est un moraliste qui, sans se rallier à cette sorte d'exaltation mystique et dévotion, j'oserais dire, Dieu me pardonne, presque idolâtre de la virginité, comme l'auteur de la quête du Graal, sans sacrifier à cela, prend tout de même en compte l'enseignement moral et religieux de la quête du Graal. Et enfin, comme le remarquait Charles Mellat, justement, la relation entre l'amour et la quête mystique dans l'ensemble du roman n'est pas, comme je le disais trop simplement il y a un instant, n'est pas de simple opposition. Il y a autre chose. De même que dans le conte du Graal, si Perceval est piégé chez Chrétien de Troyes, s'il restait un innocent et un naïf chez sa mère, ignorant la chevalerie, il n'arriverait jamais au château du Graal. Mais pour cesser d'être un innocent et un naïf, il faut qu'il s'initie à la chevalerie aux bonnes manières. Et c'est à cause de ces bonnes manières qu'il ne pose pas la question au château du Graal. S'il reste un enfant de la nature, il n'y arrivera pas. Mais c'est parce que c'est un enfant de la culture qu'il n'y arrive pas non plus. Voilà. Mais en même temps, c'est l'union des deux qui l'y conduit. Eh bien, de même, la passion de Lancelot pour Guenièvre est un péché. Mais c'est un péché qui met en... D'ailleurs, c'est le rôle du péché, qui met sur la voie du salut. Et puis, si Lancelot n'avait pas aimé la reine Guenièvre, il n'y aurait pas Galahad, puisqu'il croyait s'unir à la reine Guenièvre, etc. Donc, le roman, pas seulement dans sa tradition manuscrite, pas seulement à cause de sa longueur, pas seulement à cause de ce foisonnement vertigineux des aventures et des personnages et des fils qu'on laisse en suspens et qu'on reprend plus loin par ce procédé, vous savez, de l'entrelacement. À ce moment, le comte cesse de parler de Messire Lancelot et revient à Messire Bohort. Et puis, dans une édition 300 pages, 400 pages plus loin, on revient au personnage qu'on a laissé et le lecteur est supposé se rappeler exactement ce qui se passait à ce moment-là. Ce n'est pas seulement cela, la complexité du roman, c'est aussi cette sorte d'imbrication morale, qui est une sorte de dialectique du péché et du salut qui fait qu'ils sont inextricablement mêlés, comme ils le sont en effet. Ce n'est pas qu'ils soient mêlés, qu'ils devraient nous étonner, mais qu'ils soient séparés. Alors, je rappelle ici que Fanny Bogdanov, qui a édité La quête du Graal dans Lettres gothiques, a essayé de montrer l'existence, et d'ailleurs c'est à cause de ses travaux de toute une vie que je lui ai demandé d'éditer La quête du Graal pour Lettres gothiques, a essayé pendant toute sa longue vie, qui n'est pas finie, je lui souhaite encore de longues années, a essayé de montrer l'existence d'une quête non vulgate qui n'existe pas telle qu'elle. Enfin, une quête non vulgate, c'est-à-dire, excusez-moi, c'est bon, on appelle ce cycle du Lancelot Graal la vulgate, voilà, par opposition aux autres romans plus marginaux à côté. Bon. Et la quête du Graal est insérée dans la Vulgate, dans ce qu'on appelle le cycle Vulgate. Et Fanny Bogdanov a essayé de montrer qu'il y avait eu une vie de la quête hors du cycle Vulgate. Et alors, cette quête non Vulgate n'existe pas telle qu'elle en français, mais elle la reconstitue en particulier à partir des romans du Graal ibériques. Dans les diverses langues, en particulier en galicien, en castillan, en catalan, tous ces romans du Graal qui ont alimenté un peu plus tard les littératures de la péninsule ibérique. Et cette quête non vulgate aurait fait l'impasse sur le Lancelot propre, en somme, aurait mis de côté, se serait greffé directement sur l'histoire du Graal. Et aurait mis de côté la partie la plus profane du cycle. Ce qui irait dans le sens de certains manuscrits, même en France, par exemple, le manuscrit 147 de la collection Bodenmer à Cologne, qui, j'en avais peut-être déjà parlé, j'en ai parlé il y a 8 ans, je m'en souviens, qui insère aux articulations du cycle des traductions de la Bible ou des sermons de Maurice de Sully, l'évêque de Paris qui a fait construire Notre-Dame et qui est l'auteur du premier recueil de sermons du temps pour l'ensemble de l'année liturgique en français. Donc, un manuscrit qui essaye de toutes ses forces de donner un tour religieux à un texte qui ne l'est pas totalement. Et il y en a d'autres exemples. Alors, donc, voilà, pour en revenir au cycle Vulgate, on a d'abord on a écrit à la fois d'une façon continue et avec ses ruptures d'esprit, d'auteur et de ton, le Lancelot propre, la quête du Graal, la mort du roi Arthur. Une fois que tout était fini, on a ajouté au début l'histoire du Graal. De même que dans les chansons de geste, on commence par... Il y a d'abord une chanson de geste sur l'aventure centrale du héros, la bataille de l'Archant ou d'Aliscan pour Guillaume d'Orange, la bataille de Roncevaux pour Roland, et puis ensuite, on écrit des enfances ou des histoires qui se passaient avant. De même, on a remis au début du cycle l'histoire du Saint Graal, donc ce rafistolage fondé sur une œuvre antérieure. On l'a ajouté après coup pour raconter les événements auxquels fait allusion la quête du Saint Graal. La quête du Saint Graal, qui connaît la légende de Joseph d'Arimathie, qui connaît Robert de Boron, certainement, y fait constamment allusion. Et pour justifier, en somme, qu'elle y fasse allusion, on a mis au début l'histoire du Saint Graal en modifiant le récit de Robert de Boron en fonction de ce que dit par moment la quête du Saint Graal. C'est comme ça qu'on sait que ça a été ajouté après coup. Et le Merlin et sa suite font la jonction et bouchent le trou chronologique et diégétique, si je puis dire, entre l'histoire d'El Saint Graal et le Lancelot propre. Alors, quelle est la date de cet ensemble ? Ce qui a une certaine importance, étant donné le tour, à la fois le caractère systématique de l'œuvre et le tour nouveau qu'elle donne à cette légende. Et puis, c'est à partir de là que cette légende sera lue partout. Là, encore une fois, le nombre de manuscrits est énorme. La continuation Manessier, comme on dit, si vous en souvenez, je fais de l'entrelacement, hein, comme les romans du Graal. La troisième continuation du conte du Graal de Chrétien. La continuation Manessier connaît le Lancelot propre. Elle cite Hector des Marais, le cousin de Lancelot, Lionel et Bors, les deux frères cousins de Lancelot, Mordrin, Corbedic, tous des tas de choses qui viennent. Elle connaît cela. Or, cette continuation Manessier est antérieure au 6 juillet 1227. Vous voyez, c'est précis. On n'entre pas dans les détails qu'il faut le savoir, mais on le sait. D'autre part, le Lancelot propre lui-même connaît la première continuation de Perceval, du pseudo Vauchier de Denain. Non, non. Et cette continuation est de 12... Enfin, est antérieure à 1212-1214. Donc, le Lancelot propre est postérieur à 1214. On a donc un terminus aquo et un terminus antequem qui laisse un espace d'une douzaine d'années, ce qui est pas mal hein, comme précision pour l'époque. L'histoire du Saint Graal, l'histoire d'El Saint Graal et la mort le roi Arthur peuvent être postérieure à 1227. Jean Frappier date la mort Arthur de 1230 environ. Et la quête du Saint Graal pourrait avoir été écrite autour, compte tenu de ces éléments, autour de 1225, mais à la louche, si je puis dire. De toute façon, cela rend fantaisiste son attribution à Gauthier Mapp. La mort le roi Arthur, commence en attribuant à Gauthier Mapp la quête du Saint Graal. Et l'auteur de la mort, le roi Arthur, qui se donc implicitement avoue qu'il n'est pas celui de la quête du Saint Graal, dit qu'il continue l'histoire qu'a racontée Gauthier Mapp, maître Gauthier Mapp. Or, Gauthier Mapp, donc, qui était quelqu'un de la cour d'Henri de Plantagenet, qui était un familier de Thomas Becket, appartient nettement à la génération précédente. Gauthier Mapp est mort en 1209. Il ne peut pas être l'auteur de la quête du Saint Graal. On a toujours considéré que, du coup, on n'avait pas à tenir compte de ce que disait l'auteur de la mort, le roi Arthur, et que c'était purement fantaisiste, c'était de ses attributions fantaisistes si nombreuses au Moyen-Âge. Il se trouve cependant que le rôle littéraire de Gauthier Mapp dans ce milieu intellectuel et littéraire si important qui est le milieu de Thomas Becket et dont vous vous en souvenez peut-être, Madame Carla Rossi, nous en avait entretenu au séminaire l'an dernier. Il se trouve que donc nous sommes en des découvertes récentes montrent que ce milieu de Thomas Becket a été donc encore plus riche qu'on ne pense et a probablement eu un rôle plus important qu'on ne pense dans le domaine de la littérature vernaculaire, de la littérature en langue vulgaire, en français. Il n'est pas impossible que Gauthier Mapp lui-même ait eu un rôle plus important qu'on ne pense dans ce domaine. Il n'est pas impossible qu'il faille lui attribuer, mais je ne veux pas déflorer des découvertes qui ne sont pas de moi, un roman important de la fin du XIIe siècle, un roman français. N'est-ce pas ? Dans ce cas-là, on ne peut pas exclure qu'il y ait eu que Gauthier Mapp ait écrit quelque chose, ou que Gauthier Mapp soit pour quelque chose, tout de même, dans cette histoire, voilà, même s'il ne peut pas avoir écrit la quête du Saint Graal que nous connaissons. Bon, voilà donc pour cycle du Lancelot Graal, et il n'y a plus qu'une seule œuvre dont je dois vous parler, enfin, pour un continuer, il y en a eu pendant tout le Moyen Âge, mais enfin une pour la grande époque, si je puis dire, et une dont que j'utiliserai. C'est cette œuvre qu'on désigne généralement sous le nom de Perlesvos, Perlevaux, mais le roman s'intitule lui-même Le Haut Livre du Graal. Et c'est sous le titre « Le haut livre du Graal » que Armand Strubel en a donné récemment une édition dans Lettres gothiques. J'avoue parce que je trouvais que « Le haut livre du Graal », c'était plus beau et plus vendeur, en un sens, que Perlesvos. Il y a de bonnes raisons d'appeler cela « Le haut livre du Graal » puisque le roman lui-même se désigne sous ce titre. Mais il y a un inconvénient, c'est que, comme l'a remarqué Jean-René Valette, que nous entendrons au séminaire, le haut livre du Graal est aussi un terme générique. Et il y a plusieurs romans du Graal qui se désignent eux-mêmes comme le haut livre du Graal ou qui désignent leur matière. Cette façon de mettre à distance la source ou ce qu'on écrit soi-même sous le nom « Le haut livre du Graal ». De sorte que c'est un petit peu excessif de réserver ce titre au Perlesvos, mais ce n'est pas absurde, on dit toujours « Perlesvos » ou « Au livre du Graal ». Alors, ce Perlesvos, c'est un roman, ce « Au livre du Graal », c'est un... Perlesvos, parce que dans ce roman, dont le héros est Perceval, il s'appelle, non pas Perceval, mais Perlesvos. Pourquoi Perlesvos ? Parce que son père s'appelait dans ce roman Alain le Gros des Vaux de Camaalot. Alain le Gros des Vaux des Vallées de Camaalot. Ce nom de Camaalot qui généralement désigne la résidence du roi Arthur. Bon. Et Alain le Gros des Vaux de Camaalot, et comme il a été dépossédé par un usurpateur, son fils perd les Vaux, il perd les Vallées. Et il ne les a plus, donc il s'appelle Perlesvos. Bon. Et ce roman, on a beaucoup hésité sur sa date. Il est tellement sauvage et il a l'air tellement archaïque qu'on a dit que c'est un roman très ancien, antérieur au cycle du Lancelot Graal. Fanny Bogdanov, toujours elle, a montré dans le volume 4, ce roman avant la fin du XIIIe siècle du Grundriss der Romanischen Literatur und des Mittelalters, mais comme elle a mis très longtemps à rendre son article, c'est pas dans le volume 1, mais dans le volume 2 de documentation du Grundriss, elle a montré, mais son article n'est pas en allemand, mais en anglais, ou en France, en anglais, il me semble. Elle a montré de façon absolument irréfutable que le Haut Livre du Graal est postérieur au Lancelot Graal et qu'il connaît le Lancelot Graal. Mais ça ne change pas grand-chose. Pour l'histoire, Ce roman se présente comme, lui aussi, mais il est en prose, une suite de Chrétien de Troyes. Il prend la suite du conte du Graal, avec seulement cette différence par rapport à Chrétien, que, importante, que la mère de Perceval n'est pas morte dans le Père Lesvos. Au moment où le Père Lesvos commence, le silence de Perceval au château du Graal a entraîné la malédiction qui s'est abattue sur tout le pays. Et elle a une conséquence sur le roi Arthur lui-même, chez qui elle a entraîné une sorte d'ataraxie ou de dépression nerveuse, que le roman désigne comme une volonté délayant. Le roi Arthur est atteint de volonté délayant, c'est-à-dire qu'il délaye toujours, il ne peut pas prendre de décision. Il y a une sorte d'aboulie. Ce qui est, enfin, il me semble que la description du mal n'a rien d'absurde. Bon. Et trois personnages prennent part à la quête, Gauvin, Lancelot et Perceval. Gauvin voit les merveilles et les mystères du château du roi pêcheur, mais il ne reçoit que partiellement la grâce. Lancelot ne voit même pas le Graal à cause de son péché avec Guenièvre, mais ensuite, après avoir échoué au château du Graal, où Guenièvre meurt dans ce roman. Il se passe des tas de choses. Guenièvre meurt, le fils du roi Arthur, il n'y a pas de fils dans tous les romans, Lot est tué traîtreusement par le sénéchal Coeur. Et Lancelot arrive à l'abbaye de Glastonbury, enfin à l'abbaye au Vau d'Avalon, n'est-ce pas, parce que c'est un roman qui accrédite la légende de l'identification d'abbaye de Glastonbury comme étant l'île d'Avalon, puisque le mot « île » en ancien français désigne pas seulement une terre entourée par la mer, mais une terre défrichée entourée par la forêt. Vous avez encore, même en France, des villages, des lieux-dits qui s'appellent l'île, les îles, alors que ce ne sont pas du tout des îles, mais c'était des clairières agricoles entourées par la forêt. Donc Glastonbury est comme Avalon. Donc ça peut être l'île d'Avalon, c'est l'île des pommes ou l'île de verre, et que Glastonbury a le mot verre dans son nom, glace. Eh bien, les moines de Glastonbury ont dit qu'ils avaient la tombe du roi Arthur et que c'était eu l'île d'Avalon. Bon. Donc, le Père Lesvos accrédite cette légende, et à Glastonbury, Lancelot trouve la tombe de la reine Guenièvre, dont il ignorait la mort, et il y a une des plus belles scènes de tous ces romans arthuriens, une scène déchirante, de Lancelot apprenant la mort de Guenièvre et la veillée de Lancelot toute une nuit devant la tombe, et puis il s'en va au petit matin, et la plainte de Lancelot devant la tombe de Guenièvre. Bref, on va. Après la mort du roi pêcheur, Père Lesvos reconquiert le château du Graal sur un usurpateur qui est son mauvais oncle. C'est une famille sacrée, naturellement, mais il y a un méchant qui est le roi du Châtel Mortel, qui avait pris par usurpation le château du Graal. Et puis, à partir de cette base, Père Lesvos évangélise par la manière forte et même sanglante la Grande-Bretagne et les îles. Ce roman a pour caractéristique d'être un roman donc à la tonalité extrêmement sombre, un roman avec des éléments merveilleux, comme nous disons, extrêmement appuyés, extrêmement nombreux et extrêmement saisissants. Par exemple, l'histoire de Sir Gawain and the Green Knight, Gawain le Chevalier Vert, l'histoire de celui qui arrive et qui demande à être décapité à charge de revanche. Et alors, on décapite, il part avec sa tête, mais celui qui l'a décapité doit se présenter pour être décapité lui aussi au bout d'un an ou à un endroit donné. Bon, bien, ça se trouve, là, c'est... Bon. Et il y a au début cette scène très frappante. Le roi Arthur, je commenterai le passage longuement, pour guérir sa volonté délaillante, doit aller en pèlerinage à la chapelle de Saint-Augustin, et il veut partir avec un seul écuyer, et ce jeune écuyer, la nuit, rêve, anxieux de se réveiller à temps pour partir avec le roi, rêve qu'il va tout seul à la chapelle de Saint-Augustin, qu'il y a une bière, il prend un candélabre, il rencontre un homme noir qui porte un coup de couteau, il hurle, il se réveille, tout le monde accourt le roi Arthur, la reine Guinevere, tout le monde, parce qu'il a hurlé, et il raconte son rêve au roi Arthur, et il tire de sa botte le chandelier qu'il a pris dans la chapelle de Saint-Augustin, et il meurt du coup de couteau reçu en rêve. Après quoi, le roman commence. C'est une scène si frappante que je l'ai piqué, n'est-ce pas, et que je l'ai mise au début de mon petit roman sur Déodat ou la transparence. Mon jeune héros est le jeune frère de cet écuyer. Et c'est un roman extraordinairement sanglant et qui a une véritable obsession de la décapitation, mais de façon extrêmement frappante. Nous en reparlerons. Bon. Pour le moment, cette présentation était longue et je suis pratiquement au bout de mon temps, vraiment que j'en ai honte. Et ce dont je dois parler maintenant, et ce que j'annonce tout de même avant de terminer, et j'aurais peut-être dû commencer par cela, c'est le mot Graal. Nous parlons depuis le début du Graal. Du Graal, un Graal. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le Graal ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle un Graal ? Qu'est-ce qu'un Graal ? Un Graal parce que c'est un nom commun, n'est-ce pas, un Graal. Et Chrétien III l'emploie ainsi. Lorsqu'il décrit le cortège du Graal, un Graal entre ses deux mains, une damoiselle tenouette. Une demoiselle tenait un Graal entre ses deux mains. Là. Et le mot apparaît pour la première fois en latin, j'avais dit en 1010, dans le testament d'un comte d'Urgel, qui est cité dans le glossarium, dans le dictionnaire du Canc. Et dans ce testament, le comte d'Urgel lègue Gradales duas de argento, on voit que là, le mot est féminin, et anapos duos de argento. Il lègue deux grades d'argent et deux anapes d'argent. Donc, il lègue sa vaisselle, ça n'a rien de mystérieux. Et plus tard, on trouve, mais c'est assez exceptionnel, gradalus en latin, et dans les régions de Languedoc, on voit une évolution phonétique normale, grazala, donc le D s'affaiblit, grazala, grazalé, quelquefois dans des textes latins. Et en français, c'est un mot qui est également rare, mais qui est attesté avant Chrétien III. Par exemple, dans la version en décasyllabe du roman d'Alexandre, Ersuer, manger, otwe, à ton Graal. Hier soir, j'ai mangé avec toi dans ton Graal. Vous savez qu'on mangeait, on se partageait la même assiette. On mangeait à deux, généralement par assiette. Ah, bon. Et, ou à plus, donc, j'ai mangé dans le même plat que toi. Et ou bien on trouve cela, donc le roman d'Alexandre en décasyllabes, c'est environ une dizaine d'années avant le conte du Graal. Et on trouve aussi ce mot dans la version poitevine de Gérard de Roussillon, qui est donc là, une chanson de geste. Cette chanson de geste, écrite donc dans une langue artificielle, moitié oc, moitié oïl, et qui est peut-être presque contemporaine du conte du Graal, mais peut-être sensiblement antérieure, on hésite, enfin entre le milieu des années 1130 et une date qui pourrait aller jusqu'en 1180 pour Gérard de Roussillon. Et puis, et je termine là-dessus, on trouve le mot Graal employé encore comme nom commun et pour désigner autre chose que le Graal dans la première continuation de Perceval. Dans l'épisode de Gauvin au château orgueilleux, le mot est utilisé avec un parfait naturel comme un nom commun pour désigner des objets domestiques qui n'ont rien à voir avec le Graal. En une loge par devant, vis or Graal d'argent ester, plus de 100 têtes de sanglère, lipuèvre estoué par daleds, topré et totesquelets. Dans une loge, dans des loges par devant, il vit sur des Graal d'argent, plus de 100 têtes de sangliers. Le poivre était à côté, tout près, et dans des écuelles. Et donc, bon, les assiettes dans lesquelles on présente les têtes de sanglier, ce sont des Graals. Oui, mais cette leçon ne se trouve que dans certains manuscrits. Et dans d'autres, il n'y a pas le mot Graal. Pourquoi n'y a-t-il pas le mot Graal dans certains des manuscrits ? Que signifie la rareté de ce nom commun ? Pourquoi cette écuelle est-elle devenue une coupe ? C'est ce que nous saurons peut-être après la coupure des vacances de Noël, que je vous souhaite excellente. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.